un podcast France Culture.
Aurélie Luneau. Dans le nord, à Bailleul, les aulnes de cette forêt sont chétifs. Il manque déjà d'eau.
On va se retrouver avec des hivers de plus en plus pluvieux et au contraire des printemps-étés de plus en plus secs. Et c'est précisément en mars, entre mars et août, que les arbres ont besoin d'eau pour croître. Derrière, on le voit, les perches qui sont alignées là sont mortes ou sont en train de mourir, quoi.
Un peu plus loin,
les voici.
Les saules sont décharnés, gris. Eux aussi meurent prématurément. Ces arbres secs ne captent plus de CO2.
Dans les Hauts-de-France, dans l'est de la France et en Corse, là, les forêts sont vraiment émettrices de CO2 à cause de ce qu'on appelle la crise des scolytes dans l'est. C'est des insectes pas seulement ravageurs, mais tueurs. Ils tuent les arbres et puis donc après, il y a une grosse perte de carbone qui s'ensuit.
Les forêts françaises subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique et selon les spécialistes, depuis 5 ans, la situation s'aggrave. Méga-feux, sécheresses, tempêtes, dépérissements massifs, attaques de ravageurs mettent à mal ce formidable poumon vert. Et quand nos forêts suffoquent, elles ont plus de mal à séquestrer le carbone et à préserver les équilibres naturels. Coup de chaud sur nos forêts, comment doit-on les gérer, les soigner, les préserver en vue d'une adaptation au réchauffement climatique? Nous en discutons avec nos trois invités en direct. Régine Touffet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieure forestière à la direction forêt et risques naturels de l'ONF. Katia Bléron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de droit public à l'université de Lorraine, auteure du livre Un droit pour les forêts, un livre paru aux éditions Coyer. Et avec nous, Alain Baraton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles depuis 1982. Une voix aussi de la Maison de la Radio.
Oui.
Et auteur notamment du Dictionnaire amoureux des arbres, édité chez Plon. On peut aussi mentionner le livre Mon tour de France des bois et forêts, paru chez Stock. Et puis dans l'œil du monde planète, la journaliste du quotidien Le Monde, Martine Vallot, nous parlera de la sécheresse qui sévit en Méditerranée. Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, toujours préparé par Anaï Morales avec Sandrine Chaperon, Vanessa Chang et les équipes de documentation de Radio France. Une émission réalisée par Alexandra Malka, toujours avec à la technique ce soir Sébastien Royer.
Sur les cimes asséchées, presque aucune feuille. Au milieu des forêts de Dordogne, des paysages d'automne avant l'heure. Avec les fortes chaleurs, la sève ne circule plus correctement dans les arbres. Certains ne résistent pas. Les châtaigniers de Claude Vessy ont commencé à dépérir. Il devra les abattre.
Ça fait un peu mal au cœur. Ça vaut rien, si ce n'est qu'on va sortir du bois pour faire du papier ou de la trituration, pour faire des copeaux ou des granulés ou quelque chose comme ça. Mais financièrement, on n'en sort rien, quoi.
Il en tirera à peine 10% de leur valeur habituelle. En Dordogne, les propriétaires forestiers estiment qu'un arbre sur 5 est déjà condamné. Ce dépérissement massif perturbera tout leur environnement.
Là, on voit vraiment le problème, quoi. Quand il y a plus de lumière qui arrive au sol, donc il y a une substitution aussi de plantes herbacées, les oiseaux ne peuvent plus nicher, etc. Donc ce n'est pas un seul arbre qui est soumis à la sécheresse, mais c'est tout l'écosystème autour de lui, qu'on appelle nous le cortège végétal, qui l'entoure.
Dans cette forêt près de Bordeaux, même les espèces réputées résistantes à la chaleur, comme ces pins maritimes, montrent des signes de faiblesse.
Normalement, elle reste verte tout au long. Regarde, tout est sec.
Extrait de reportage diffusé sur France 2 le 30 août 2022. Des forêts qui nous font du bien, mais qui souffrent dans leur grande diversité. Avant d'aborder justement ces questions-là de souffrance et d'attaque, peut-être serait-il précieux de faire un petit topo des forêts françaises. Avant tout, en France métropolitaine, on compte 17 millions d'hectares de forêts. Un massif forestier qui occupe 30%, 31%. C'est ça,
31% du territoire.
Oui, Régine Touffet. Et donc, avec des forêts très diverses, des forêts de plaine, de montagne, vous avez fait un tour de France, Alain Baraton, dites-nous un peu cette diversité.
Une très grande diversité, les forêts naturelles, les forêts qui ont été plantées, les forêts de guerre également, là où pour dissimuler les obus et permettre à la vie de reprendre, eh bien, toutes ces forêts du côté de Verdun, mais il y a une diversité de forêts. Je dirais qu'il y a pratiquement autant de régions en France que de types de forêts.
Et oui, forêts du littoral, d'ailleurs, vous plantez aussi le décor en Corse avec ces arbres qu'on croit issus de la mer, mais en fait non, ils sont juste accrochés sur les flancs de ces falaises.
Et puis pardonnez-moi, la forêt des Landes. Et quand on parle de la forêt des Landes, on peut penser bien sûr à cette forêt plantée, mais aussi tous les souvenirs que nous avons pour les vacances passées dans l'une des plus belles régions du monde, que justement cette côte atlantique.
Mais bien sûr, on a tous des souvenirs, on a tous un attachement, et en même temps, on voit ces forêts souffrir. C'est important d'en parler justement pour parler aussi des solutions et prendre conscience de ce qu'il faut faire ou faudrait faire et ce qu'il ne faut peut-être pas faire. Des forêts qui renferment énormément d'essence d'arbres. Alors, selon les documents, j'ai vu que c'était à peu près ou 138 ou 190 essences d'arbres recensées. Je ne sais pas qui détient, peut-être Régine Touffet, le chiffre exact, non, le nombre d'essences.
Oui, l'inventaire forestier national nous dit 190 essences dans l'Hexagone.
Dont 65% à peu près de feuillus ou un peu plus, hein, et donc avec cette grande richesse écologique. Alors, des forêts publiques et privées, on peut peut-être s'attarder sur cette question-là. Donc, combien de forêts publiques et privées, en gros?
Alors, sur les 17 millions d'hectares de forêts dans l'Hexagone, 4,6 millions d'hectares sont des forêts publiques, avec une part de forêts domaniales, forêts du domaine privé de l'État, qui représentent 1,7 million à peu près, et puis des forêts qui appartiennent plutôt à des collectivités ou à d'autres établissements publics, qui représentent 2,9 millions. Et donc, l'Office national des forêts, on est le gestionnaire de ces forêts publiques.
D'accord, donc, mais essentiellement, il y a plus de propriétaires privé que public.
Oui, oui, il y a plus de 3 millions de propriétaires privés.
D'accord.
Et beaucoup de propriétaires de petites surfaces.
Katia Bléron, est-ce qu'il y a un droit forestier, oui, qui existe, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un code des forêts ou une déclaration des forêts qui permet peut-être de les protéger par rapport à leur exploitation? Parce qu'il faut quand même préciser que ces forêts, elles représentent près de 20% des ventes de bois en France, hein, avec surtout celles situées dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, hein, si je ne m'abuse.
Oui, effectivement, il y a un code forestier qui porte d'ailleurs indistinctement sur les forêts publiques et les forêts privées. Mais à ceci près que effectivement les régions, on parlait de forêts extrêmement diverses, mais les régions sont très inégales en forêts publiques et forêts privées. Dans le Grand Est, par exemple, il y a principalement des forêts publiques, alors que dans peut-être plus l'ouest de la France, ce sont plutôt des propriétaires privés. Mais tous sont soumis effectivement au code forestier, à leur protection, mais aussi pour la gestion forestière en matière de bois, mais aussi de préservation des écosystèmes. C'est toute une multifonctionnalité des forêts que tente de mettre et de gérer le code forestier.
Un code forestier qui tient compte de ce qui se passe justement avec le réchauffement climatique ou pas vraiment et qui mériterait d'évoluer?
Il y a des évolutions. Les évolutions sont surtout prises en compte dans peut-être d'autres domaines du droit, parce que les forêts sont certes principalement gérées par du droit forestier, mais elles sont aussi concernées par du droit de l'urbanisme, du droit de l'environnement, qui prennent en compte ces évolutions de manière parcellaire.
Parce qu'un arbre, en fait, c'est considéré comment ? Comme un être ou comme un bien immeuble ou meuble ?
Alors, un arbre, c'est un immeuble. Il appartient au propriétaire du sol. Et dès qu'on le coupe, il devient un meuble. Alors, pas un meuble fini d'un point de vue juridique, comme on pourrait le transformer pour une maison. Mais en attendant, c'est juridiquement un meuble.
Ah oui, donc c'est vraiment une propriété à la marathon. Ça vous choque, ça, ou pas?
Je trouve ça dramatique. Un arbre, c'est un être vivant. C'est parfois une œuvre d'art. Et tout doit être fait pour le préserver. Alors, je voudrais simplement revenir sur les protections. Je suis toujours très inquiet quand on parle de protection, parce que je parle sous le contrôle de Régine Touffet de l'ONF. Mais l'une des premières personnalités à s'être intéressée à la protection des forêts, c'était Philippe le Bel. Nous sommes en 1291. Il faudra ensuite attendre Colbert et sa fameuse loi concernant la protection des forêts. Mais même le travail de Colbert ne sera finalement mis en œuvre que sous Charles X, très exactement en 1827. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, j'allais dire, des textes qui protègent la forêt, mais il y a urgence. Aujourd'hui, urgence, un, pour redonner le contrôle des forêts aux forestiers, deux, pour tout mettre en œuvre pour protéger les forêts, replanter et vraiment sauver les arbres.
Et alors, vous mentionnez dans un de vos livres, justement, la marathon, la tentative de voir aboutir à une déclaration des droits de l'arbre. Hein. Donc, ce projet a été présenté le 5 avril 2019 à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Georges Fetterman. On peut peut-être en parler.
Ah, Georges Fetterman, un homme extraordinaire qui est le président de l'association Arbre. C'est lui qui a eu le premier, l'idée avec Georges Bourdu, de créer un label pour distinguer les arbres dits remarquables, ces arbres qui se distinguent par leur rareté botanique, leur beauté, leur âge. Et c'est vrai que Georges Fetterman a eu envie, avec d'autres élus et des politiques, eh bien de lancer un manifeste pour protéger les forêts, protéger les arbres, et pour qu'on en cesse de couper tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment urgence. Nous partons simplement à l'étranger, 30 secondes, mais il ne reste qu'une seule forêt primaire en Europe, elle est en Pologne. Eh bien, elle est actuellement menacée par des projets qui incombent plus ou moins à l'État français. On devrait peut-être devenir un peu plus exemplaire en matière de gestion et d'exemplarité.
Katia Bléron.
Oui, s'agissant de la déclaration du droit de l'arbre, il n'y a pas encore une déclaration des forêts, mais une déclaration des droits de l'arbre est assez laconique, mais plusieurs villes en France ont repris cette déclaration. Des conseils municipaux, dans leurs délibérations, l'ont adoptée. Et donc, même si, d'abord, elle n'est pas juridiquement contraignante, dès lors que des conseils municipaux la reconnaissent, eh bien, la protection de l'arbre commence aussi à être intégré au quotidien, par exemple dans les travaux d'aménagement de certaines villes, et une prise en compte de leur protection, même au quotidien, de leurs racines et de leurs troncs, dans cette perspective.
Donc des avancées, hein, ces petits pas, hein, dont vous aurez l'occasion aussi de nous parler, Katia Bléron. Régine Touffet, leur fragilité. La mortalité des forêts a augmenté de 54% en 10 ans. La rapidité de réchauffement climatique prend tout le monde de vitesse, en fait. Il faut peut-être juste rappeler... selon une étude du Centre national de la propriété forestière, la vitesse du changement climatique est évaluée à 200 km par siècle, voilà, si on veut juste visualiser, alors que la vitesse moyenne de migration actuelle des essences forestières est de 5 km par siècle. Donc on voit bien que il faut pouvoir agir, aider ces forêts qui, de toute façon, sont rattrapées par ce réchauffement climatique qui les met à mal. Voilà, allons-y sur peut-être les dangers principaux.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut pas ne rien faire. Il faut agir. Alors, de manière différente selon les secteurs, en fait. On estime que la moitié de la forêt française va changer de faciès d'ici 2100. Mais on aura quand même des zones où les essences en place pourront perdurer. Donc, on continue la stratégie historique. Enfin, nous, en tous les cas, en forêt publique, qui est la régénération naturelle. Mmh. Parce qu'on considère que les essences en place pourront s'en sortir dans le climat futur. On a d'autres endroits où on a également l'essence principale qui sera en difficulté, mais on a des essences d'accompagnement sur pied, enfin en place, qu'on pourra en fait favoriser au détriment de l'essence qui est actuellement principale. Donc on fait avec l'existant.
Au coup par coup, selon les régions, selon le type de forêt.
Voilà, en fait, l'important, c'est d'observer, de diagnostiquer. Il y a tout un suivi en continu. C'est ça, en fait, le changement de paradigme. C'est qu'avant, on faisait un plan d'aménagement sur 20 ans. Et voilà, on a visibilité. Mmh. On disait, l'essence objective, c'est le chêne, c'est le hêtre. Et voilà. Sauf que là, en fait, on se rend compte qu'on peut plus faire avec ça parce que les tempêtes arrivent, il y a des dépérissements, les scolytes sont là. Donc, en fait, il y a tout un processus de diagnostic en continu qui est très important pour nous et pour agir en fonction de ce qui se passe.
Alors, vous parlez des atteintes, donc les feux, la sécheresse, donc le stress hydrique, hein, on peut s'arrêter un instant sur ces questions-là, et bien sûr, les insectes ravageurs, les scolytes, les champignons, les insectes, donc les bactéries, les chenilles processionnaires, la chalarose, hein, c'est une maladie?
Oui, c'est une maladie qui affecte principalement le frêne. Et cette maladie est si terrible que certaines forêts de l'Est de la France sont même fermées au public pour éviter les risques d'accident. Nous pourrions rajouter la suie qui oblige justement les forestiers à couper quantité d'érables en région parisienne. Nous pourrions rajouter... Mais le drame, c'est que moi je suis né en 1957. Mmh. Et quand je me promenais dans les bois, il n'y avait pas de problème ou de réel problème sanitaire, excepté peut-être les feux de forêt. Aujourd'hui, la maladie est partout. Ça devient dramatique quand on se promène en montagne et qu'on voit des pans entiers de montagne avec des arbres secs, il y a quand même de fortes raisons de s'inquiéter. Donc la situation devient terrible, les arbres sont fragilisés, l'accès aux forêts devient dangereux et vous en avez parlé tout à l'heure en préambule, une forêt mais ce ne sont pas que des arbres, ce sont aussi des insectes, des oiseaux, des mammifères, toute une vie.
Un écosystème, une biodiversité.
Bien sûr.
Et qui s'entraide, en fait.
Et qui nous est indispensable. Imaginez un instant ce que la France serait sans forêt. Ce serait un pays livré au vent, à l'érosion des plages, de la mer. Ce serait un pays où la pollution serait absolument terrible. Nous avons besoin des forêts. Les pays sur la planète où il n'y a pas de forêt, souvent ce sont des régions désertiques. Ça s'appelle des déserts. Et là où il y a des déserts, il n'y a pas de vie. Alors, certains vont vous dire, si, il y a de la vie. Non. Il n'y a pas de la vie, il y a de la survie. Voilà. La forêt, c'est vraiment la vie. D'où l'importance aujourd'hui de se pencher vraiment sur la situation et puis peut-être d'écouter les vieux sages. Tout à l'heure, vous parliez de Georges Fetterman. Moi, je voudrais parler de Francis Allais. Francis Allais, qui est un homme, un ethnobotaniste que nous connaissons tous, qui a ce projet extraordinaire de forêt primaire. Et de temps en temps, on devrait davantage écouter, eh bien, ces hommes qui ont tellement de choses à nous dire, tellement de choses à nous raconter. Voilà.
Écouter et soutenir, parce qu'il a besoin aussi de financement pour mener son projet. Régine Touffet.
Oui, Alain Baraton parlait de la forêt primaire, du projet de Francis Allais. En fait, ce qu'il nous faut, c'est aussi différentes forêts. Parce que le but d'une forêt, c'est aussi de produire du bois pour décarboner l'économie. Le bois, une fois qu'il est coupé, qu'il est dans nos charpentes, dans nos meubles, il stocke le carbone. Et donc, d'un point de vue atténuation du changement climatique, c'est favorable. Donc, en fait, voilà, il faut des forêts en libre évolution, mais il faut aussi des forêts qui sont cultivées pour faire du bois, tout en préservant la biodiversité et puis l'accueil du public. Mais c'est vrai que le diagnostic, là, est un peu négatif, mais on peut aussi se dire que le code forestier nous rappelle que les forêts sont placées sous la sauvegarde de la nation, donc c'est quand même fort, ça veut dire qu'il y a quand même l'État qui est derrière, qu'elles sont d'intérêt général. Le code forestier, il cite les différentes fonctions des forêts, et ça emporte à la fois la production de bois, la biodiversité, l'accueil du public. Et les forêts publiques spécifiquement, le code forestier nous dit qu'on doit vraiment promouvoir encore plus, quelque part, la biodiversité, l'accueil du public, tout en produisant du bois pour décarboner l'économie.
Même s'il y a eu des erreurs faites dans les années passées, ou avec les coupes rases, ou avec une exploitation des forêts qui n'étaient pas ou aussi vertueuses, en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui. L'État, en tout cas, a créé un fonds de 250 millions d'euros au titre de renouvellement forestier. Ça dit quelque chose quand même, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience aussi de cet objectif de renouveler 10% des forêts en 10 ans avec 1 milliard d'arbres plantés. On sent que là, l'État prend conscience du pire qui est à craindre peut-être. Est-ce qu'on doit craindre de voir des millions d'hectares disparaître avec le réchauffement climatique ? Régine Touffet.
C'est ce que, par rapport à l'État, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment une prise de conscience. On a eu le plan de relance avec 10 000 hectares qui ont été plantés. Ensuite, on a eu, en conclusion des Assises de la forêt, un France 2030 avec toute une politique aussi volontariste de plantation, mais pas que, parce qu'en fait, dans les engagements de l'État, c'est aussi aider à la régénération naturelle. Là, on a le fonds pérenne dans le cadre de la planification écologique qui s'engage aussi à renouveler des hectares de forêt en prenant en compte des objectifs environnementaux. Il y a tout un cahier des charges. Et puis, ce qui me vient aussi en tête, c'est que l'État a remis un concours de techniciens forestiers. Donc, ça, c'est aussi un signal fort de l'implication de l'État pour développer une politique, pour aider les forêts pour demain. Est-ce que la forêt va disparaître? C'était ça, je crois, la question. Moi, je crois que les forêts ne vont pas disparaître, mais elles seront différentes. Ce ne sera pas les mêmes essences. On aura des essences qu'on a déjà en France, mais qui seront dans d'autres régions. Et puis, on fait aussi des expérimentations sur des toutes petites surfaces avec des essences qui sont...
Alors ça, on va voilà. En parler effectivement dans un instant. On peut peut-être préciser que les espèces qui sont les plus en difficulté aujourd'hui, parce que certaines souffrent plus que d'autres, ce sont les hêtres, les frênes, les épicéas, sapins...
C'est dramatique. Alors moi, j'ai l'avantage non pas de diriger une forêt, mais un jardin, un parc. Et quand on dirige un parc, on voit l'arbre en solitaire, on le voit. Et l'on peut constater parfois sa dégradation. Les hêtres, par exemple, c'est absolument incontestable, sont en train de disparaître du paysage, je dirais, d'Île-de-France, incontestablement. Et nous avons, par exemple, un alignement de hêtres à Versailles, 450 arbres d'alignement. Et bien, chaque fois que l'un des hêtres ne supporte pas la canicule ou le sol soleil, eh bien, il meurt. Et celui qui est immédiatement situé derrière, donc quelques temps après, va suivre le même chemin. Il y a donc une disparition des êtres, et même les vieux êtres dans les bosquets sont eux également en train de disparaître. Nous constatons également la disparition des bouleaux. Quand je parle de disparition, je veux dire par là que ce sont des arbres qui ont toujours été plantés, et que malgré nos efforts de jardiniers d'en replanter sans cesse, nous n'arrivons pas à maintenir les plantations. Nous avons donc décidé, par exemple, dans cet alignement de hêtres, de remplacer le hêtre par d'autres essences. Mais je voudrais, si vous le permettez, temporiser votre enthousiasme envers le gouvernement. Vous parliez, je crois, de 250 millions d'euros.
Je m'interdis d'être enthousiaste ou de penser quoi que ce soit à ce niveau-là.
Il y a quelques années encore, le déficit du commerce extérieur avait pour deuxième cause l'exportation de bois venant de l'étranger. C'est quand même quelque chose, je crois, d'assez dramatique. Et puis, je crois que le président de la République souhaite planter avant la fin de sa mandature 60 millions d'arbres. Je ne garantis pas le chiffre, mais plusieurs millions d'arbres. Donc j'aurais aimé que déjà on plante des arbres par million et que l'on mette dans la forêt beaucoup plus que 250 millions. Je rappelle que la forêt, ce n'est pas que on l'a dit, ce ne sont pas que des arbres. C'est la biodiversité, c'est la vie, c'est le maintien des sols, c'est la purification de l'atmosphère, c'est la vie. Et si on n'est pas capable aujourd'hui, de montrer l'exemple, que sera le futur. La France a toujours, on le sait, un devoir d'exemplarité. Rendez-vous compte que sur la planète, chaque année, la surface des forêts équivaut à 600 fois la ville de Paris. Tous les ans, il y a 600 fois
sur
la ville de Paris en moins. Il est grand temps de réagir.
Et là, si on tient compte des études, par exemple, la dernière étude de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté concernant l'impact du réchauffement climatique, donc après 18 mois d'enquête, 12% des forêts de France devraient disparaître d'ici 10 ans, soit 2 à 3 millions d'hectares. Et selon la Cour des comptes, donc le rapport publié le 12 mars, ce serait 15%, avec des chiffres similaires, en signalant quand même que d'ici la fin du siècle, 30 à 50% des territoires ne seront plus en mesure d'offrir des conditions adaptées aux essences forestières existantes. Donc effectivement, il est temps d'agir, de réagir et de repenser cette préservation, la façon de planter et puis la façon aussi d'exploiter. Je vous propose, avant de discuter justement des solutions, comment intervenir, comment faire ses choix face aux atteintes, je vous propose d'écouter ce reportage réalisé à la Teste de Buch en Gironde, 2 mois après les feux de juillet 2022. Je rappelle que 7000 hectares de pins étaient partis en fumée. On se rend à la Teste de Buch pour voir les choix faits par les agents de l'ONF pour l'avenir de ces forêts. Reportage diffusé sur France Info le 29 septembre 2022.
Ici, on fait le choix de la régénération naturelle. On souhaite renouveler le peuplement à partir des peuplements existants et pas faire de plantations. Donc notre pari, c'est que tout arbre dont on pense qu'il peut survivre au passage du feu, on va le conserver et il va contribuer à renouveler la forêt.
Ailleurs, dans la forêt de la Teste de Buch, il faudra replanter, mais de manière intelligente. Avec une végétation plus résiliente aux aléas climatiques.
On va essayer de préserver ou d'introduire de la diversité, et en particulier des essences feuillues qui sont à la fois peu inflammables et qui résistent bien au feu. On pense en particulier au chêne liège. Et l'autre avantage de ces essences-là, c'est qu'elles ont un couvert foncé, opaque, qui limite à la végétation basse de se développer trop. Et donc, ça limite l'inflammabilité, et c'est un élément extrêmement important.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, Katia Bléron, je crois que vous vouliez réagir avant qu'on puisse regarder la façon de protéger, en tout cas, les forêts, ce qui se passe, et ce métier aussi de forestier qui change, en fait, qui doit se renouveler face au réchauffement climatique, notamment, et aux atteintes.
Oui, c'était simplement pour compléter sur ces plantations. Il faudrait savoir aussi ce que l'on voudra faire de ces plantations, si elles sont là pour refaire du bois, ou si elles sont là aussi pour reconstituer une biodiversité ou des puits carbone qui sont en diminution. Et sur ce point, il faut être vigilant aussi sur la contradiction de certaines législations qui, d'un côté, incitent aussi un droit forestier qui incite toujours à des coupes, d'une part, et d'autre part, des fonds qui incitent à des plantations dans une perspective de biodiversité.
Ce sont surtout les forêts privées qui sont tournées vers cette exploitation massivement ou pas, ou qu'il faut peut-être encadrer, guider, ou voilà. Est-ce qu'on peut distinguer ?
Pas forcément.
Les exploitants forestiers.
Il y a peut-être une certaine diversité dans les pratiques, peut-être davantage en forêt privée, parce que la législation va plutôt en ce sens.
Régine Touffet, alors, tous les trois, bien sûr, Alain Marathon, Katia Bléron, sur cette façon de protéger, de voir autrement. J'ai cru comprendre qu'il y avait des chantiers pilotes, des laboratoires à ciel ouvert où l'ONEF plante des espèces résilientes. Hêtres d'Orient, calocèdre de Californie, chêne de Hongrie, platane d'Orient, chêne de Turquie. On commence quand même à imaginer une sorte de remplacement. Je ne sais pas si on doit parler comme ça. Il y a des techniques qui pour aider les arbres à migrer aussi, parce que la migration, elle ne peut pas se faire aussi vite que les atteintes du réchauffement climatique. On parle d'hybridation, de migration assistée. Voilà, qu'est-ce qui est en chantier aujourd'hui et mérite d'être regardé sans que on fasse disparaître complètement ce qui est l'ADN des forêts françaises aussi.
Ça dépend du diagnostic qu'on peut faire selon les endroits. Mais par exemple, ce qu'on fait, effectivement, la migration assistée, c'est qu'on prend des essences qui sont, par exemple, dans le sud de la France, comme le hêtre de la Sainte-Baume qu'on a planté du côté de Verdun. Donc, c'est le projet Giono. Ou alors on prend du chêne de la forêt de Grésigne qu'on va, donc on prend les glands de ces chênes, on les cultive en pépinière et on va les planter dans des forêts domaniales ou autres publics qui sont plus au nord. En France, on a la chance d'avoir un climat quand même diversifié et donc on a les climats chauds du sud dans lequel poussent des arbres qu'on peut effectivement faire migrer vers le nord. Par contre, pour les régions qui sont davantage, enfin qui sont complètement au sud, là, on n'a plus chez nous de climat plus chaud. Et donc, ça vaut le coup d'aller chercher ailleurs, voir ce que le sapin d'Espagne, le Labias pinsapula peut donner, le chêne de Hongrie, voir au Maghreb, voir même un peu plus loin. Mais tout ça, en fait, c'est encadré. On fait des expérimentations, donc c'est vraiment des petites surfaces. Donc, quand on parle de remplacement, on n'en est pas là. Mmh. Là, on fait des îlots d'avenir à titre, pour avoir un ordre. Nos îlots d'avenir depuis 2021, c'est 1600 hectares. Donc 1600 hectares sur les 4,6 millions de forêts publiques qu'on gère, c'est vraiment des toutes petites surfaces. Donc il n'y a pas de. Pas de crainte à avoir par rapport à une extension d'essence qu'on ne connaîtrait pas. On plante, il y a tout un suivi en matière de recherche et développement et on va voir, nos successeurs verront dans 50 ans les essences qui ont tenu le coup et ils pourront s'en servir en effet pour boiser, planter les forêts à leur tour. Et
en même temps, c'est une, j'ai envie de dire, sacrée responsabilité. Permettez-moi cette expression parce que quand vous dites ceux d'après, ce sont quand même ces générations d'ailleurs ou des jeunes. Qui ont besoin aussi que les aînés fassent les bons choix, parce que eux auront-ils la possibilité ou le temps de réagir suffisamment ? Ce sont quand même des choix cruciaux par rapport au devenir de l'humanité sur la planète. Concrètement, on parle des horizons 2030-2050, c'est demain, et on voit bien que tout va très vite. Le réchauffement climatique, on mentionne souvent le 1,5 degré. Aujourd'hui, en France, on sait qu'on est à 2 degrés, et le plan à l'échelle du gouvernement, il y a des études pour une adaptation à 4 degrés, puisque l'Europe fait partie des continents qui se réchauffent le plus vite. Donc effectivement, ça va quand même... On imagine la pression sur vos épaules, Régine Touffet.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est dans l'ADN du forestier, en fait, de faire la forêt de demain, aujourd'hui. Enfin, on hérite de siècles en fait de travaux de forestiers. C'est vrai que, comme le disait Alain, l'administration forestière, la première, c'est Philippe Lebel, 1291. 1346, c'est l'ordonnance de Brunois qui disait déjà que les forestiers devaient agir, enfin les maîtres des eaux et forêts à l'époque, doit agir pour soutenir en fait les forêts. Donc c'était vraiment le début du développement durable.
Mais il n'y avait pas ce défi du réchauffement climatique qui prend tout le monde de court en fait.
Oui, c'est ça, mais il y avait quand même l'idée de mettre des essences, enfin de travailler la forêt pour demain.
Oui, ou avec cette diversité. Mais là, on est face effectivement à d'autres urgences, à la marathon.
Oui, je pense à la corporation qui est la mienne, les jardiniers, et qui ont été confrontés il y a longtemps à un choix cornélien. Comment remplacer les ormes ? Sous Louis XIV, ce sont des ormes qui bordent l'intégralité des allées de Versailles. D'ailleurs, les théories du jardin à la française, telles qu'elles ont été définies par Jacques Androué du Cerceau et Jacques Boisseau de la Barodière, précisent bien que les allées seront bordées d'ormes. Et une maladie terrible, redoutable, contre laquelle on n'a toujours pas traitement, la graphiose, a totalement décimé les populations d'ormes. Aujourd'hui, nous avons mis des tilleuls en remplacement et personne ne s'en plaint. Je crois qu'il est quand même préférable aujourd'hui d'envisager de faire venir des plantes d'ailleurs et de continuer à profiter des forêts plutôt que d'avoir des déserts. Ce serait très amusant de demander à ceux qui nous écoutent quelles sont les plantes qui sont originaires de France. Vous n'avez pas idée du nombre de plantes qui aujourd'hui déjà viennent de l'étranger, parfois de continents très lointains. Donc l'idée que demain, dans le sud, on fasse venir par exemple des végétaux du Maghreb n'est en rien choquant, si c'est la seule méthode pour conserver nos forêts.
Et alors, il y a ce plan nommé forêt mosaïque, je crois, à l'ONF, visant à préserver l'aspect multifonctionnel des massifs français, fournir du bois d'œuvre de qualité, protéger la biodiversité, lutter contre le réchauffement climatique, offrir un espace de bien-être. Et puis donc, c'est technique expérimentée. Donc, hybridation, c'est un croisement entre deux espèces. Et donc, migration assistée, c'est une autre technique qui, alors pour certains, disent c'est peut-être un grand saut dans l'inconnu. En tout cas, ça demande effectivement de voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce qu'il y a des espèces que l'on avait délaissées et qui, avec le réchauffement climatique, se révèlent finalement être très intéressantes ?
Il y a le cormier, par exemple. Le cormier qui peut être intéressant et avec lequel nous allons faire des vergers à graines. Dans l'idée de récolter ces graines de cormier et puis de les élever en pépinière et puis de les introduire dans nos forêts pour voir ce que ça donne.
Ah oui, on parle aussi du chêne pubescent.
Oui, tout à fait. Oui, le chêne pubescent était déjà dans nos forêts au sud.
Mais il a l'air d'être plus résistant que d'autres.
Exactement.
Et à la marathon, par rapport à ces questions-là, faisons aussi attention quand même aux espèces invasives, parce que on peut rien réintroduire. On parle du chêne rouge, du robinier fous acacia. Alors
l'essence invasive, j'ai toujours été un petit peu perplexe. Mm-hmm. Le mimosa, par exemple, le bon vieux acacia, mimosa, donc est considéré comme invasif. Déjà, que serait Bormes les mimosas sans mimosa? Que serait la Côte d'Azur sans mimosa? Soyons réalistes. Est-ce que vous croyez vraiment que le mimosa en 24 heures est capable de transformer un paysage? Je ne crois pas. Aujourd'hui, on dit attention, le Paulownia serait peut-être également invasif. Également, l'élante également poserait quelques difficultés. Donc, il y a bien, effectivement, des essences invasives. Il y a des plantes qui poussent sur l'eau, incontestablement. Il y a des plantes qui poussent dans les arbres, incontestablement. L'arbre invasif, je le vois vraiment pas comme une menace. Là, il appartient aux forestiers d'intervenir en temps et en heure. Et ce qui, hier, risquait d'être invasif sera rapidement, stoppé dans son élan. Je suis pas convaincu, mais je crois que le bon vieux érable, il y a une variété d'érable qui serait aussi considérée comme invasive. Je crois qu'on a un petit peu tendance à exagérer. Je parle des arbres.
En tout cas, un peu comme en agriculture, évitons quand même les monocultures, c'est ça, Régine Touffet?
Oui, bien sûr, parce que monoculture peut être un peu, en termes de biodiversité, un peu moins intéressante. Mais c'est pour ça qu'on favorise la régénération naturelle, qu'en termes d'adaptation des forêts au changement climatique, on fait des plantations en enrichissement, dans une matrice de semis naturels. Et bien évidemment, on évite de planter une seule essence. Il y a des objectifs de diversification dès lors qu'on fait des plantations, pour favoriser un maximum de biodiversité.
Et puis faire en sorte que ce soit des écosystèmes aussi qui ne soient pas trop secs ou trop inflammables. Il y a quand même ces craintes-là. On a vu des images qui ont terrifié tout le monde et ces dévastations, bien sûr, qu'on a tous en tête. Katia Bléron, préserver ce qui est considéré comme un bien commun, en fait. On n'a pas encore prononcé ce mot bien commun, mais on en est là, ces forêts. C'est dans avec la notion de développement durable. Bon, attention, prôné depuis le rapport Brundtland, remis en 1987 à l'ONU, même si ce mot développement durable, c'est débat, les discussions que cela génère, puisqu'on estime qu'un développement n'est pas forcément durable, mais bien commun.
Alors, peut-être avant tout sur le développement durable. Oui. Il faut peut-être savoir que le développement durable vient de la forêt. C'est un forestier allemand au 19e siècle qui a pensé ce concept à partir de la possibilité forestière. C'est-à-dire de prendre en compte le rythme des forêts et de sa régénération afin de pouvoir l'exploiter et qu'elle soit utile aussi aux générations présentes mais aussi à venir. Et c'est ainsi que le concept de développement durable est né à partir en fait d'une question forestière. Donc effectivement, le développement durable est plutôt un concept anthropocentré, parce qu'on pense simplement en termes de génération humaine, mais on pourrait aussi l'associer à la possibilité forestière, c'est-à-dire aussi l'associer aux générations des arbres actuels et à venir dans ce cadre aussi de réchauffement climatique.
À ce stade de l'émission, nous allons découvrir justement votre choix musical, Katia Bléron. Vous avez choisi une chanson qui s'intitule « Colors » de Black Puma, la raison spécifique ou que vous pouvez nous confier, avouable ou pas ?
Oui, c'est tout à fait avouable. Eh bien, le groupe a écrit cette chanson sur le toit d'une maison familiale lors d'un coucher de soleil. Donc, c'est une ode véritablement aux beautés de la nature, surtout en fin de journée. Et c'est aussi une ode à la fraternité entre les hommes et peut-être aussi une fraternité intergénérationnelle dont certains demandent, que certains demandent aussi.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. I'm headed to town, town, town in style with all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, like my sisters and my brothers, see 'em black no other. All my favorite colors. It's a good day.
Colors de Black Pumas, et c'est le choix de Katia Bléron. C'est la suite de Cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et nous poursuivons notre immersion au cœur des forêts avec nos trois invités. Régine Touffet, ingénieure forestière de la Direction Forêt et Risques Naturels de l'ONF. Katia Bléron, professeure de droit public à l'Université de Lorraine, auteure du livre « Un droit pour les forêts » paru aux éditions Coaé, puis Alain Baraton, responsable du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles depuis 1982. auteur notamment du livre Dictionnaire amoureux des arbres, édité chez Plon. Et puis on peut mentionner Mon tour de France des bois et forêts, paru chez Stock. Des arbres et des hommes, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire.
C'était un coin de campagne enchanteur du nord de l'Angleterre. Il est maintenant bouclé par la police, comme une scène de crime. Le sycamore Gap, ce vénérable érable de près de 300 ans, a été abattu en pleine nuit, coupé net, à la tronçonneuse.
Je suis dévastée, c'est un jour très triste.
C'est un acte stupide qui met du monde dans la peine. Ce sont beaucoup de souvenirs qui s'envolent.
C'est une honte que quelqu'un ait vandalisé une si belle partie de notre campagne.
Érable majestueux, le plus photographié d'Angleterre, star des réseaux sociaux sur l'emblématique mur d'Adrien, les couples s'y demandaient en mariage. En 1991, cette scène du film Robin des Bois, Prince des voleurs, où Kevin Costner en arrache un rameau, a rendu l'arbre célèbre dans le monde entier. L'émotion est nationale, idiot se désolant une ce quotidien anglais. Comme à la mort d'une personnalité, certains ont déposé des fleurs. Au Royaume-Uni, la coupe illégale d'un arbre est passible d'amende sans plafond et même d'une peine de prison.
Reportage diffusé sur France 2 le 30 septembre 2023. L'attachement à un arbre d'exception, cet érable sycamore de légende abattu en Angleterre et un pays qui en est bouleversé. Alain Baraton, alors vous parlez aussi d'attachement spécifique hein, dans vos livres. Vous nous racontez aussi enfin votre châtaignier qui a été désigné arbre de l'année 2021.
Et j'en suis très heureux.
Voilà. Et vous dites bien précisément que abattre un arbre, alors vous l'avez fait hein, dans votre métier, mais on ne s'y habitue jamais.
On ne s'y habitue jamais, puis il y a quantité d'arbres. Il y a ceux qui sont abattus pour faire du bois. Nous sommes bien contents d'avoir du bois plutôt que du plastique. Il ne faut donc pas tout confondre, bien entendu. Une forêt peut servir à entretenir la biodiversité, mais aussi à exploiter le bois. Mais il y a aussi ces arbres merveilleux, ces vénérables, ceux qui mériteraient d'être protégés par la loi. Saviez-vous qu'en France, les arbres ne sont pas protégés par la loi? Les forêts le sont, les parcs le sont, les alignements le sont, mais l'arbre en tant que tel ne l'est pas. Par exemple, l'olivier de Rogoun-Cap-Martin, le doyen de tous les arbres qui vivent en France. Il est vieux de 2000 ans. Vous ne croyez pas que cet arbre mériterait une protection au même titre qu'une cathédrale ou qu'une de ces sculptures épouvantables qui parfois ornent un carrefour ou un rond-point près d'une autoroute? Il faut protéger les arbres. On devrait même sacraliser, même dans certaines forêts. Je ne parle pas des arbres d'un certain âge. On était bien content dans la forêt de Troncay de couper les arbres pour permettre à Notre-Dame de retrouver sa charpente. Mais de temps en temps, on a un très très vieux sujet. Je parle d'un arbre exceptionnel de plusieurs centaines d'années. Eh bien, je crois que tout doit être fait pour qu'il soit respecté en tant que doyen, en tant que vénérable, en tant qu'arbre remarquable. Et là encore, je rends hommage bien à l'action de Georges Fetterman et de toute l'association Arbre.
Oui, Régine Touffet.
Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Nous, on essaye de faire tout ça, en fait, en forêt publique, avec les zones en libre évolution dans lesquelles on laisse les arbres vieillir. Donc, on a des vieux, des gros arbres. On a aussi des arbres remarquables qu'on valorise. On a une convention avec l'association Arbre de Georges Fetterman. Donc, il y a tout un travail d'inventaire et de protection, de valorisation des arbres remarquables, en partenariat avec les acteurs locaux, les associations. Il y a l'association les Amis de la forêt de Retz, par exemple, qui ont leur être remarquable. Et après, bien évidemment, évidemment, on coupe aussi des arbres dans le cadre d'une gestion durable. Donc, moi, je ne sais pas si je suis triste quand je vois un arbre qui est abattu, parce que je vois derrière, alors, sauf quand ce sont nos épicéas scolytés qui, effectivement, sont malades et avec pas grand-chose en matière de régénération naturelle au sol. Oui. Mais quand on, en matière de gestion durable, dès lors qu'on n'est pas dans le cadre de coupes illégales dont on parlait tout à l'heure...
Et abusives ou massives.
Quand on coupe un arbre, c'est que dessous, il y a plein de petits semis naturels de chênes qui est l'avenir de la forêt, et le chêne qu'on coupe, on le retrouve dans nos meubles, dans nos armoirettes, dans nos tables, dans nos charpentes. Le carbone, comme je le disais tout à l'heure, est séquestré et c'est vraiment très vertueux.
Par contre, quand les forêts brûlent, le carbone est libéré et effectivement, c'est désastreux. Les forêts naturelles en libre évolution, est-ce que vous diriez, Régine Touffet, qu'elles résistent mieux aux agressions, aux incendies ou pas forcément?
Alors ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'évaluer, justement, pour voir un peu comment ces forêts en libre évolution se comportent vis-à-vis du changement climatique. Voilà, les incendies et le risque...
C'est à l'étude.
Voilà.
D'accord. Katia Bléron.
Oui, il y a même les propriétaires privés, sans être propriétaires forestiers, mais même quand on a un arbre sur sa propriété privée, on peut même décider de limiter son droit de propriété et de préserver cet arbre dans des contrats spécifiques que l'on appelle des obligations réelles environnementales. C'est-à-dire que le propriétaire confie la gestion, entre guillemets, naturelle de son bien, donc de son arbre, à des associations pour la préservation de la biodiversité, comme la présence d'espèces protégées, comme des chauves-souris, ou pour l'entretien de ces arbres remarquables. Et donc, il s'engage, le propriétaire s'engage à ne pas le couper, ou dans le respect des préconisations par la partie contractante.
Alors, on entendait dans le reportage qu'en Angleterre, celui ou celle qui a abattu cet arbre, donc en cours, grosses amendes ou peine de prison, en France ?
Alors, il y a aussi des sanctions, mais elles sont beaucoup moindres, en tout cas, d'un point de vue général, oui.
Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, pourtant, et c'est important, hein, ces forêts françaises, elles remplissent moins leur rôle de puits de carbone, étant en souffrance. Donc, entre 2013 et 2021, les arbres ont retiré de l'atmosphère 40 millions de tonnes de CO2 par an, contre 60 millions de tonnes au cours de la décennie précédente. Donc, on voit que, il y a quand même un écart de 20 millions de tonnes. Certaines forêts françaises émettent même du carbone, comme en Corse et dans le Grand Est. Quelle est votre réaction? Et alors, que pensez-vous de la mise en marché des forêts, c'est-à-dire avec les compensations carbone qui consistent à planter des arbres? Alain Baraton.
Moi, j'aime bien l'idée de planter. Mmh. J'aime bien l'idée de demander à ce qu'on appelait autrefois les charmantes petites têtes blondes de venir planter leur arbre. J'imagine la joie d'un enfant quand il mettra du temps à trouver son arbre dans un lieu qui est devenu une forêt. J'aime l'idée de planter des arbres pour cacher tout ce que la société d'aujourd'hui nous offre de disgracieux. Avouez que de temps en temps, avoir une muraille d'arbres pour cacher une ville moderne ou des dépôts pétroliers, ce n'est quand même pas du luxe. J'aime l'idée de planter des arbres parce que je sais que si nous avons des climats où il pleut, où les températures sont justement tempérées, c'est grâce aux arbres. Donc je crois qu'il faut planter les arbres. Mais là encore, il faut se souvenir que les arbres sont des êtres vivants et que ceux qui ont pour la mission de mieux, de bien les gérer, de bien les entretenir et de bien les exploiter, ce sont les forestiers. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne se préoccupe pas suffisamment des forestiers. Alors, je ne dis pas ça par rapport à Régine Touffet au niveau de l'ONF, mais il y a quelques années, il y a eu un conflit au sein de l'ONF, et j'ai été surpris de constater à quel point on se désintéressait des problèmes rencontrés par les forestiers. Aujourd'hui, l'entretien de la forêt française doit être une priorité. J'observe que partout à l'étranger, on se mobilise. Il est prévu, par exemple, en Afrique, la grande muraille verte qui partira du Sénégal et qui va jusqu'à Djibouti. Il y a de grands projets partout dans le monde. En France, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. J'aurais aimé qu'on se mobilise davantage, mais il faut planter.
Après, il y a des projets, c'est planter pour permettre justement de continuer à polluer, ce qui pose d'autres questions. Oui. Hein, Katia Bléron, vous voulez réagir?
Oui, il y a aussi beaucoup quand même d'initiatives locales, et c'est là où on voit en fait que maintenant la forêt ne peut plus être gérée comme il y a 200 ans. Maintenant, les citoyens, les habitants se préoccupent de leur forêt, de leur bosquet, de l'arbre qui se trouve en bas de chez eux, et il y a une vraie prise de conscience autour effectivement de ce que vous disiez, d'un bien commun, que ce soit un arbre ou même une forêt.
Vous appelez, je crois, à un parlement de la forêt, comme il y a un parlement de la Loire qui avait été lancé et qui a été lancé par l'écrivain Camille de Toledo.
Oui, alors
parler au nom des forêts, défendre leurs droits.
La question de qui peut parler au nom des forêts.
Mais oui, bien sûr. Donner une personnalité juridique à des lieux boisés, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour on arrivera aussi à ça.
Ça se fait pour une lagune en Espagne, Mar Menor. Certains en appellent aussi pour la Loire ou la Garonne. Et le parlement des forêts est d'abord une initiative d'artistes sur un petit peu aussi une préoccupation pour le parlement de la Loire, mais au-delà, c'est-à-dire qu'ils essayent aussi de parler au nom de ces entités naturelles, et juridiquement c'est ce qui se passe aussi dans d'autres États, mais même nous avons des instruments juridiques pour représenter ces éléments naturels comme les forêts, pour les défendre, et cette idée vient encore là aussi d'un juriste californien qui disait qu'il fallait que les arbres plaident devant les juges pour se défendre puisque personne ne pouvait le faire pour eux.
Restez avec nous. Il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Martine Vallaud pour parler de la sécheresse qui s'installe en Méditerranée. Que se passe-t-il dans cette zone géographique? Bonsoir Martine.
Bonsoir Aurélie. Alors que se passe-t-il en Méditerranée? C'est un peu comme un été qui n'en finirait pas. Il fait chaud, trop chaud, et il ne pleut pas. Il ne pleut plus assez depuis des années. Alors la sécheresse s'étend. L'ouest de la région est particulièrement touché. les cartes d'anomalies de précipitation et celles sur le déficit d'eau dans les sols dessinent très nettement un arc de sécheresse qui part du Maroc. Alors, le Maroc vit actuellement sa 6e année consécutive de sécheresse. Et cet arc s'étend à toute l'Afrique du Nord, atteint le sud du Portugal, l'Andalousie, borde toutes les côtes est de l'Espagne, les Baléares, la Catalogne, qui connaît sa pire sécheresse depuis un siècle. Et on le sait bien, de ce côté-ci, la frontière va jusqu'aux Pyrénées orientales. Autour de Perpignan, en effet, en février, on en était à 22 mois d'affilée de déficit de précipitations, la différence du reste de la France, bien arrosée ces derniers temps. Les Pyrénées orientales, elles, connaissent une sécheresse historique, c'est-à-dire la plus longue et la plus intense depuis le début des relevés de Météo France en 1959. Et la Sicile, l'Italie, la Grèce sont aussi touchées de plein fouet.
Alors à quoi est dû ce phénomène ?
Alors on pourrait avancer que l'hiver météorologique que nous venons de connaître, c'est-à-dire le mois de décembre, janvier et février, a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Mais pourtant, le problème va bien au-delà en Méditerranée. Il ne s'agit pas d'un épisode conjoncturel, mais d'un phénomène durable. Les scientifiques observent que cette région constitue un hotspot du changement climatique. Cela est directement lié à la température de la mer, qui grimpe sans cesse à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Or, le bassin méditerranéen est fermé. Il a tendance à stocker cette chaleur, ce qui contribue à maintenir un anticyclone stationnaire à l'ouest de la région et empêche les habituelles pluies d'automne de tomber. Et il n'y a pas que le manque de pluie. La situation est aussi propice à la formation de tempêtes violentes. Les climatologues expliquent qu'en fait, il s'agit des deux faces d'un même phénomène. Il parle désormais de Medicane pour la Méditerranée. C'est un mot formé à partir de hurricane qui désigne les cyclones tropicaux.
Alors concrètement, Martine Valo, quelles sont les conséquences de cette sécheresse persistante ?
On peut imaginer à quel point le tourisme va être touché dans ces pays où il représente un secteur important. Mais le plus important est sans doute ailleurs. Toute cette région méditerranéenne est une grande productrice de fruits, d'avocats, d'huile d'olive, dont les prix flambent, de céréales, de tomates. Cette région approvisionne tous les marchés européens. Au Maroc, où les réservoirs sont remplis au quart de leur capacité, les agriculteurs puisent dans les nappes souterraines profondes pour irriguer leurs champs. Mais ces nappes-là ne se renouvellent pas, autant dire que ce n'est pas durable.
Merci Martine Valo.
Merci.
Et votre article ainsi que celui d'Alan Caval sur le sujet sont accessibles sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet et bien sûr sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Dans les dernières minutes de l'émission, je me tourne vers vous. Peut-être avez-vous envie de donner un coup de chapeau, un coup de lumière sur alors un arbre, une personnalité, Katia Bléron.
Eh bien moi, je voudrais rendre hommage à un jardin botanique, celui de Jean-Marie Pelt à Nancy.
Oui, un grand nom aussi,
Jean-Marie
dont il faut se souvenir.
À Nancy, oui, qui a décidé de dédier cette année eh bien, son exposition annuelle aux droits des plantes. Et donc, on s'interrogera toute l'année, à partir du 29 mars jusqu'au 3 novembre, sur les plantes ont-elles des droits ? Et donc, il y a tout un parcours des expositions et des animations pour faire réfléchir autour de ces questions de ces droits.
Donc, ce sera quand ?
C'est du 29 mars au 3 novembre au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-le-Nancy. C'est dans la métropole du Grand Nancy. Et voilà.
Régine Touffet ?
Oui, moi, je voudrais tout simplement mettre en avant tous nos collègues forestiers sur le terrain qui font un travail formidable dans des conditions pas toujours faciles face à des forêts qui dépérissent. Mmh. Mais avec cette perspective de planter, renouveler pour la forêt de demain. Et donc, les auditeurs, d'aller au contact des forestiers lors des visites guidées, etc. Et puis, pour plein d'informations sur la gestion de la forêt, sur ce que fait l'ONF, allez jeter un œil sur le site onf.fr et suivez le compte Instagram de l'ONF qui a plein d'informations extraordinaires sur la gestion des forêts.
Et tout à disposition sur le site de l'émission aussi. Alain Baraton.
À deux personnes, si vous le permettez. Ah, Vangari Mataille, bien évidemment. cette femme.
Il faut rappeler qui elle était.
Voilà, femme extraordinaire, une Africaine qui a consacré sa vie à planter des arbres et qui, lorsqu'elle est morte, a refusé un cercueil pour ne pas que pour elle on coupe un arbre. Et puis rendre hommage également à Jean Giono, parce que Jean Giono a donné envie à des générations de jardiniers et des non-jardiniers, et encore aujourd'hui, eh bien, de planter des arbres. Voilà, donc Giono et Mataille, qui fut également prix Nobel de la paix.
Mais vous avez encore un petit peu de temps pour peut-être parler plus longuement. Hein. C'est vrai que Wangari Maathai, méconnue, hein, et c'est vrai qu'on peut la saluer parce qu'elle était biologiste, femme politique kényane, et elle luttait des arbres. Alors pour lutter contre, elle plantait des arbres pour lutter contre la déforestation et aussi pour donner une autonomie aux femmes.
Tout à fait. Et malheureusement, son décès est pratiquement passé inaperçu. Cette femme avait une conviction incroyable, une humanité hors du commun, le don de la communication inné. C'est une femme qui partageait, et quand on va sur internet, que l'on tape son nom et qu'on voit les vidéos où elle est représentée, on a une femme, c'est une belle personne, on le voit, elle rayonne, tant son amour des autres était évident. Mais je crois que quand on aime autant qu'elle les arbres, on ne peut qu'aimer les hommes.
Et puis ce qu'elle a initié continue à vivre d'ailleurs, cette ceinture verte, et sa dernière volonté, décédée en 2011, Wangari Maathai, après avoir été prix Nobel de la paix en 2004, et bien sa dernière volonté c'était effectivement que son cercueil soit fait de bambou et de fibres de jacinthe.
Une très grande dame.
Pour ne pas abattre un arbre. De mon côté, je ne peux terminer cette émission sans penser à quelqu'un qui fait partie de notre panthéon des grands hommes du monde de la culture et des médias, Jean-Marie Borzex. Il fut directeur de France Culture de 1984 à 1997 et il nous a quittés le 16 mars dernier. C'était un grand monsieur, un grand humaniste qui a ouvert les portes et de son bureau et de la radio à beaucoup de personnes. Voici ce qu'il disait de France Culture le 4 juillet 2008. C'était dans l'émission du jour au lendemain, au micro d'Alain Weinstein.
Écoutez, France Culture, j'ai pour cette radio un immense attachement. J'y ai été heureux, très heureux. Et elle est toujours l'une des plus belles radios au monde, peut-être la plus belle. Je suis arrivé en 84 ici, cette radio était en train de mourir. Elle était étouffée par les radios privées un peu partout en France. On ne l'entendait plus ou très difficilement. Elle avait de moins en moins de moyens et tous les jours, il y avait un homme politique qui se réveillait en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette radio ? On va la tuer. » Je n'entends plus du tout ce discours et la radio, on l'écoute dans d'excellentes conditions partout. Et grâce à Internet, de nouveaux moyens de communication, elle touche de nouveaux publics. Montrez-moi au monde une radio comparable à celle-ci. Donc on a beaucoup de chance de travailler dans cette radio et je crois que le public qui lui est fidèle, eh bien, il en a plus que jamais besoin. Donc c'est irremplaçable.
Et merci à vous, cher Jean-Marie Borzex, pour tout ce que vous nous avez apporté. France Culture ne vous oubliera pas. Et merci à tous les trois, nos invités de ce soir. Régine Touffet, Katia Bléron, je rappelle le titre de votre livre « Un droit pour les forêts » paru aux éditions Quai. Alain Baraton a dégusté, bien sûr, votre « Dictionnaire amoureux des arbres » édité chez Plon. Et puis le livre « Mon tour de France des bois et forêts » paru chez Stock. Références bibliographiques, les liens, autres documents sont à retrouver comme d'habitude sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast, réécoute, à savourer comme d'habitude. Attitude.